Chapitre 65. Le grand sourire de Nathan éveilla aussitôt les soupçons de Nietzsche.
« Magicienne, je crois avoir trouvé où chercher la réponse. »
Le vieux sorcier venait d'intercepter Nietzsche dans le couloir qu'elle remontait en direction de sa chambre où Chardon dormait déjà. La jeune femme s'autorisa quelques secondes d'espoir.
« Tu es sûr de ton affaire ?»
Le sourire de Nathan s'effaça.
« Sûr, c'est peut-être excessif. Disons que je suis très confiant. Regarde. »
Nathan posa sur un banc le lourd volume qu'il trimbalait. Après l'avoir ouvert, il désigna une ligne du doigt.
« Ce n'est qu'un indice, mais le meilleur que nous ayons jamais eu. Tu m'as fourni l'incantation et le sortilège utilisé par Victoria, d'après ses mémoristes. » Et ce texte nous offre d'excellents paramètres pour l'élaboration d'un contresort. Nous connaissons l'essence de ce que nous affrontons, mais pas la méthode idéale pour l'affronter. »
Nathan tapota une page aux lignes tremblotantes parce que l'encre avait en partie coulé.
« C'est une bibliographie qui devrait nous permettre d'en savoir plus, sur Victoria comme sur le buveur de vie. »«
Il ne nous intéresse plus, » lâcha Nietzsche. « Je l'ai tué. » »«
Certes. » Mais Victoria et lui sont liés. Le sort de Roland a pris beaucoup de choses au monde, et celui de Victoria lui en rend trop. C'est une affaire de contrôle, de gestion du flux magique, si tu préfères.
Une sorte de soupape de sécurité,
murmura Nietzsche en se mordillant la lèvre inférieure.
Le buveur de vie ne parvenait plus à arrêter sa magie, à endiguer le flot, en d'autres termes.
C'est exactement ce qui arrive à Victoria. Roland et elle sont des vaisseaux pour la magie. En tuant le buveur de vie, tu as tari le flot mortel. Nous devons détruire Victoria pour obtenir le même résultat.
Je ne vois aucune objection à ce programme,
dit Nietzsche. Elle s'interrompit le temps de laisser passer trois érudits qui fonçaient vers la salle à manger. Un type d'âge moyen les suivait, un livre ouvert dans les mains.
« J'aimerais juste savoir comment m'y prendre, » ajouta la magicienne.
Nathan désigna de nouveau son grimoire.
« Dans cette liste, on trouve un volume essentiel et je crois savoir où il est. Dans les sous-sols de la tour fondue, si ça t'intéresse. Il est un peu tard ce soir, mais nous pourrions commencer les fouilles demain.
Tu sais où chercher? C'est un vrai labyrinthe. »
« Mia le sait, oui. »
Même si la jungle primitive et son pouvoir foisonnant étaient désormais derrière lui, le Shaxi sentait encore la puissance de la maîtresse de la vie à qui il devait d'exister. Alors qu'il traversait la zone encore dévastée, le tueur puisait toujours de l'énergie dans l'exubérante création de sa mère. Le Shaxi continua son chemin à travers la balafre. Quand il atteignit le secteur moins dévasté, il se régénéra au contact de la chiche végétation. Grâce à la magie de Victoria, la moindre touffe d'herbe et le buisson le plus ratatiné l'alimentaient en énergie, augmentant sa force et sa résistance. Aux petites heures de l'aube, le tueur atteignit le pied de la mesa. Ses deux cibles se cachaient au cœur d'un complexe, tout en haut d'un chemin sinueux. Victoria étant familière de surplomb du monde, sa créature n'aurait aucun mal à trouver les prises qui le conduiraient jusqu'au sommet. Levant la tête, le golem végétal estima la distance. Une personne agile aurait escaladé la paroi rocheuse. Lui, il n'avait pas besoin de ce type de qualité. Posant les mains sur la roche, il laissa pousser ses doigts qui s'introduisirent dans les minuscules fissures de la paroi et les élargirent. Le principe du lierre grimpant. Un bras passant devant l'autre, ses muscles de bois gonflés. Le Shaxi sentit grouiller en lui toute la détermination de la vermine qui l'habitait. Pouce après pouce, il se hissa le long de la paroi. S'aidant avec les pieds, il avança plus vite que prévu dans un concert de bourdonnements, ses locataires qui bruissaient pour se donner du courage. Ses yeux scarabées brillant dans la nuit, le golem continua son ascension. Dans son cerveau fait pour l'essentiel de compost, il n'y avait guère de place pour la réflexion. En revanche,
L'image de Nietzsche et de Nathan y était gravée. Ses cibles. Des cris tirèrent Nietzsche d'un profond sommeil. Prête à combattre, elle se leva d'un bond. Par chance, cette nuit, ses rêves ne s'étaient pas unis à l'esprit de Mra. Sinon, elle aurait eu plus de mal à recouvrer toute sa lucidité. Chardon sauta sur ses pieds et courut tirer le rideau qui tenait lieu de porte à la petite chambre. Des cris retentissaient dans le couloir où s'alignaient des rayonnages lestés de livres. Même dans les chambres des érudits, les murs étaient tapissés d'étagères pleines à craquer de rouleaux de parchemin ou de grimoires que ces infatigables chercheurs emportaient avec eux pour travailler le soir. Ivre de fatigue et pressé d'en arriver aux fouilles le lendemain, Nathan émergea de sa chambre en tenue de nuit, mais épée au poing. Visiblement, il n'arrivait pas à localiser la source des cris. Quand Nietzsche le rejoint, ils découvrirent ensemble le guerrier végétal qui avançait vers eux dans une cacophonie de craquements de bois et de bourdonnements d'insectes. Un érudit eut la mauvaise idée de sortir de sa chambre au moment où la créature passait devant. Réagissant à la vue d'une cible potentielle, le monstre tendit ses bras hérissés d'épines et les enroula autour du jeune chercheur. Hurlant de douleur, le malheureux cracha un flot de sang tandis que les pieux de bois le déchiquetaient de l'intérieur. Quand il se tut, enfin mort, son bourreau le jeta au loin. Dans le couloir, d'autres érudits, glacés de peur, restèrent figés sur place. D'autres trouvèrent la force de fuir.
« C'est quoi ce monstre ?»
demanda Chardon, serré contre Nietzsche.
« Un Shaxi, je crois, » répondit Nathan, « fabriqué avec tout le rebut de la forêt. »
« Que veut-il ? »
cria un des érudits, les yeux baissés sur la dépouille en lambeaux de son confrère. Le Shaxi avança et le bourdonnement se fit plus fort.
« Victoria nous l'envoie, »
dit Nietzsche.
« C'est nous qu'il veut. »
Les deux scarabées verts qui tenaient lieu d'yeux au monstre se tournèrent vers Nietzsche. Dès qu'il eut identifié la magicienne, le tueur chargea. Nietzsche se plaça devant Chardon et Nathan leva son épée. Courageux mais pas téméraire, les érudits battirent en retraite dans leur chambre. Le Shaxi avança, ses bras feuillus en croix. Son corps semblait empli d'insectes rampants qui le propulsaient vers Nathan et Nietzsche. À la manière d'un bûcheron, le sorcier frappa l'ignoble créature et parvint à lui couper un bras. Des insectes et des asticots jaillirent de la plaie comme s'ils étaient du sang. Le Shaxi recula à peine. Déjà le moignon repoussait, gros entrelacs de lianes, de brindilles et de brins d'herbe. Maniant sa lame comme une hache, Nathan coupa l'autre bras du monstre. Cette fois, le membre repoussa encore plus vite.
« Une épée ne suffira pas, sorcier, »
dit Nietzsche. Levant une main, elle expédia un souffle d'air puissant. Le géant végétal encaissa sans broncher, l'essentiel de l'énergie traversant son corps creux. Quelques insectes de plus tombèrent sur le sol.
« Mes éclairs noirs ou du feu de sorcier feraient un désastre ici, » dit Nietzsche. « Ça détruirait les livres et tuerait trop de gens. »
Le Shaxi reprit sa marche, les bras tendus. Nathan frappa de nouveau avec une puissance de bûcheron.
« J'ai à peine assez de place pour manier mon épée, »
se plaignit-il. Nietzsche passa à un point d'air. Cette fois, la créature chancela. Alors que des livres tombaient des rayonnages, le Shaxi s'empara d'un autre érudit, lui brisa la nuque, l'éviscéra, puis le projeta contre un mur. Dosant au minimum son sortilège, Nietzsche invoqua un seul éclair qui percuta la jambe gauche du golem et la désintégra. Un instant sur une patte, la créature se régénéra en un clin d'œil. Épaule contre épaule, Nietzsche et Nathan lui barraient le chemin. Mais le Shaxi ne voulait pas passer entre eux. Son but, c'était de les tuer et rien d'autre. Dans un bruissement de feuilles et un vacarme de bourdonnement d'insectes, il repoussa un deuxième point d'air de Nietzsche. Nathan profita de la diversion pour frapper encore.
« Je vais chercher une torche pour lui flanquer le feu !»
lança Chardon derrière Nietzsche. Elle partit en trombe, mais n'alla pas bien loin. Une liane couverte d'épines jaillit d'un bras du Shaxi et s'enroula autour d'une jambe de la fillette qui tenta désespérément de se dégager, le mollet en sang. Folle de rage, Nietzsche oublia toute prudence, invoquant une boule de feu, des flammes normales, pas du feu de sorcier, trop dangereux ici, elle la projeta sur le monstre. Il s'embrasa, son squelette végétal brûlant comme de la paille. Des insectes à demi carbonisés tentèrent de s'enfuir, mais très peu réussirent. Même en flammes, le tueur de Victoria tenta de ceinturer la magicienne, Un point d'air le repoussa, l'envoyant valser contre un mur. À l'agonie, il continua à tenter de saisir des proies pour les déchiqueter, et quand il creva enfin, des flammèches retombèrent sur les rayonnages qui prirent feu à la vitesse de l'éclair. Bientôt le couloir ne fut plus qu'une fournaise. Malgré sa jambe blessée, Chardon courut jusqu'à sa chambre, arracha le rideau et s'en servit pour étouffer les flammes. Nathan l'imita et des érudits accoururent pour leur prêter main forte. Nietzsche lança un sort qui arrosa les flammes, puis elle priva celle qui restait d'oxygène jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Accourant de partout, des érudits luttèrent pour empêcher l'incendie de se répandre dans les salles. Terrifiés par la vue de leurs collègues morts, certains se tétanisèrent, mais d'autres prirent sur eux et se battirent comme des lions afin de sauver les archives du désastre. Une femme en pleurs s'agenouilla près d'un cadavre, l'allongea proprement puis entreprit de ramasser les livres tachés de sang qui l'entouraient. Quand l'incendie fut maîtrisé, Nietzsche vit que la jambe de Chardon saignait beaucoup. Sans hésiter, elle posa les mains sur la plaie et guérit sa petite disciple.
« Je savais que tu me sauverais !»
souffla la gamine soulagée. Le visage couvert de suie, Nathan saisit un scarabée dans sa crinière blanche et l'écrasa entre ses doigts. Sur ces entrefaites, Bannon déboula dans le couloir, les cheveux en bataille et le regard halluciné. Vibrant d'excitation, il se fraya un chemin parmi les érudits en état de choc.
« Je viens de rentrer. Douce mère la mère, si vous saviez la nuit que j'ai passée. »
Regardant autour de lui, il remarqua enfin que quelque chose clochait.
« Qu'est-il arrivé ici ?